Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au balado « Rencontrer les manges-gardiens ». Le gaspillage alimentaire est un lourd fardeau, autant économique, social et écologique. L'ONU estime que le tiers de la nourriture produite est gaspillée à travers le monde. Des aliments sont discrédités tout au long de la chaîne agroalimentaire pour différentes raisons. Une forme moins intéressante, une date dépassée ou de légères imperfections. On nous demande souvent, mais en tant que consommateur, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous espérons que ce podcast répondra à cette question et vous donnera envie de vous impliquer dans la lutte au gaspillage alimentaire comme le font déjà beaucoup d'autres manges-gardiens, c'est-à-dire des gens qui respectent assez la nourriture pour tenter de la sauver des poubelles. Aujourd'hui, nous recevons Alexa et Sylvie des Cuistots du Frigo qui nous parleront de cuisine à partir d'invendus et de frigos communautaires. Bonne écoute! Bonjour.
Bonjour!
Vous allez bien?
Oui, bonjour! Enchantée d'être ici!
Oui, bien moi aussi, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Donc, vous êtes venue nous parler d'un super projet qui s'appelle les Cuistots du Frigo. Est-ce que vous voulez nous résumer un peu qu'est-ce que c'est?
Donc, les Cuistots du Frigo, on cuisine à partir des soit invendus, mal aimés, les denrées de dernière chance. Mm-hmm. Le but, c'est vraiment d'éviter le gaspillage alimentaire. Donc ça, c'est le premier aspect du projet. Ensuite, on se rassemble un groupe de bénévoles, des personnes motivées qui ont soit l'environnement à cœur, le don de soi ou la cuisine, tout simplement des personnes curieuses de cuisiner parce qu'on développe ensemble la cuisine intuitive. Donc, on apprend à cuisiner avec ce qu'on a sous la main et non suivre une recette, de savoir cuisiner avec les odeurs, les couleurs, les saveurs.
Ah, puis, c'est intéressant!
Par la suite, toute la nourriture qu'on fait est redistribuée dans un frigo partage, un frigo communautaire accessible 24 heures.
Ah, est-ce que vous voyez qu'il y a des répercussions avec ce que vous faites? Est-ce que vous êtes capable de voir que vos plats ont été pris dans les frigos?
Mon Dieu, oui!
Oui!
Écoute, on met les plats dans le frigo à la fin de notre activité. Mm-hmm. Et puis, on revient faire le nettoyage de la cuisine et tout ça. Puis, quand on ressort, le frigo est presque vide. Wow. Il y a un réel besoin. D'ailleurs, j'invite les gens des quartiers où il y a des frigos partage à aller porter de la nourriture. Vous mm-hmm. faites un repas pour vous, vous en faites une deuxième portion, puis vous allez la porter. Puis mm-hmm. il y a quelqu'un qui va pouvoir manger grâce à ça.
Si je pense à nos outils à nous, on a un répertoire de frigos communautaires sur le site internet de Sauve ta bouffe. Puis depuis la pandémie, c'est un de nos outils qui est vraiment le plus utilisé. Ouais. Là, les gens ont vraiment besoin de ces ressources-là. Donc, puis comme vous dites souvent, les frigos, on les ouvre puis ils sont vides.
Ouais, ouais. C'est pas parce qu'ils sont jamais remplis.
Ils sont très utilisés, ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Mais justement, des initiatives comme la vôtre ou n'importe qui a le goût de mettre des aliments dans les frigos, ben c'est les bienvenus. Autant les PME aussi, des fois, les petits commerces. Moi, j'entends parler des fois des gens qui, par leur propre initiative, sont employés dans des petits commerces, ils voient qu'il y a des aliments qui vont être jetés, ben, ils vont porter ça dans des frigos communautaires.
Donc, à n'importe quel moment, on peut vraiment déposer des denrées, pas juste des plats, des repas non plus. Là.
Non. Non, c'est ça, mais souvent, quand on parle de repas, c'est important, par exemple, de noter qu'est-ce qu'il y a dedans pour les allergies, entre autres, puis de mettre la date.
Comment qu'on fonctionne, c'est quand même assez simplement. On inscrit, on donne un nom à notre plat, puis la date. Okay. C'est sûr qu'on aimerait en venir à, justement, des étiquettes beaucoup plus personnalisées. En fait, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aussi, il faut mm-hmm. le dire. On fait ça, on a 3 heures, puis pendant notre 3 heures, c'est pas juste la cuisine, mais c'est aussi de décider ce qu'on fait, parce qu'on se rassemble à 4 heures, puis là, on décide ensemble qui fait quoi, comment. La préparation, bien sûr, mais il y a aussi le fait qu'on utilise des conteneurs récupérés. Ça, il faut tous les laver pour respecter aussi le temps de cuisson. Oui. Des fois, on se dit, un pâté chinois, c'est super simple à faire, oui, mais c'est long. Mm-hmm. On n'a pas ce temps-là, nous.
Non.
Puis l'empotage, puis on ne veut pas mettre ça trop, trop chaud au frigo non plus. Il faut quand même qu'il y ait un petit temps de repos. Par la suite, aller porter au frigo, bien sûr, et nettoyer toute notre cuisine et notre
fameuse
vaisselle
c'est ça. Si. Parce que là, vous, en fait, vous faites la cuisine les jeudis, de ce que je comprends, de ce que vous avez expliqué, c'est au centre d'entraide Basseville que ça se passe. Au service d'entraide Basseville, merci. Puis, en fait, vous n'êtes pas un organisme, vous êtes vraiment un regroupement bénévole. Ouais. Vous n'êtes pas enregistré à nulle part. Donc, c'est vraiment une initiative que toi, Alexa, t'as partie. Puis, vous avez des bénévoles. Est-ce que vous en avez beaucoup, des bénévoles? Avez-vous beaucoup de demandes?
Oui, j'en ai trop.
OK, ah ouais.
Parce que...
Donc, il ne faut pas trop publiciser en ce moment.
Non, mais je dis j'en ai trop. En fait, c'est juste parce qu'on aimerait en faire plus, justement. Puis,
ouais.
C'est une initiative qui a démarré pendant la COVID.
Oui.
À la base, on pouvait être que 4 à cause du respect dans l'espace, dans la cuisine, parce que ça reste... Oui, c'est le service d'entraide de Basseville nous prête leur cuisine, qui sont des cuisines professionnelles, mais c'est quand même pas les plus grandes cuisines qui existent. C'est ça. Nous, en ce moment, on a essayé 9. Après ça, on va tout simplement se piler sur les pieds. C'est surtout ça. Okay. J'aimerais ça, oui, qu'on puisse cuisiner à 15, mais on manque d'espace. Donc, le projet est parti par mon style de vie. J'ai commencé à faire du bénévolat dans des distributions alimentaires, puis je me suis rendu compte que malgré le fait que ça passe déjà à la base par Moisson Québec, qui eux autres récupèrent des denrées déjà, des invendus ou des surplus, eux autres, ils vont distribuer dans les organismes pour qu'eux autres, ils fassent une distribution alimentaire. Mais malgré tout ce processus, il y a encore du gaspillage. Mm-hmm. Puis c'est là que je me dis, ben voyons, la nourriture est encore consommable, mais ce qui reste à la fin, c'est soit qu'il y avait un trop grand inventaire de la même chose, puis des fois, c'est tout simplement parce que les gens savent pas quoi faire, par exemple, de ce légume-là. Mm-hmm. Puis c'est à ça que sert aussi les cuistots du frigo. C'est vraiment pour... N'importe qui sait même pas cuisiner peut venir avec nous mais on n'a pas besoin de savoir vraiment cuisiner parce qu'on va s'entraider. Puis mon but n'est pas d'être le chef dans la cuisine, mais que les gens viennent s'amuser.
Tout à l'heure, vous parliez de cuisine intuitive. Oui. Comment vous vous organisez avec justement des aliments qui sont peut-être un peu tout le temps les mêmes, carottes, choux, j'imagine que ça doit se retrouver quand même assez souvent dans ce que vous avez. Comment vous réussissez à être inventif puis à passer tout ce que vous avez, à vous-même pas faire de gaspillage? Est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est plus
difficile?
Ça prend
de la créativité, puis je te dirais que le fait d'avoir des bénévoles différents, ça amène des nouvelles idées aussi.
Oui.
Eux autres, ils peuvent arriver avec des nouvelles recettes, mais c'est sûr qu'on tourne souvent autour du chou, des carottes, du riz.
Ça prend une certaine créativité. Est-ce que ça se développe, ça, avec le temps? Ou...
C'est sûr que vraiment d'avoir l'instinct de partir de A à Z sans aucune recette, il n'y a peut-être pas tout le monde qui l'a, mais juste de découvrir une nouvelle façon de cuisiner ou des nouveaux aliments, ça peut ouvrir l'imagination aussi. Parce que l'imagination, c'est quelque chose qui... En vieillissant, on oublie, il faut continuer le cultiver en quelque sorte. Là. Je ne sais pas comment dire ça, mais c'est comme si c'était un muscle qu'on peut développer puis qu'on travaille. Donc, plus on est ouvert d'esprit, puis plus on va essayer des nouvelles choses aussi. Là.
Oui, puis il faut apprendre aussi à remplacer, parce que suivre une recette, c'est pas mauvais en soi. Là. Non. C'est correct de suivre des recettes. Mais d'être capable de dire, de voir que, bon, j'ai pas cet aliment-là, est-ce que j'ai quelque chose qui peut remplacer, qui pourrait... T'sais, ça fait partie aussi de la créativité. Oui. La créativité, ça se nourrit par la connaissance. Mm-hmm. Plus tu vas connaître de choses, plus ta machine à créativité va fonctionner, parce que t'as comme un gros inventaire de possibilités avec les connaissances, puis c'est ça. C'est ça qu'on explore avec les cuistots du frigo. Mm-hmm.
Exactement. Il y a très peu d'ingrédients dans une recette qui n'est pas interchangeable. Donc, de juste dire, hey, j'en ai pas. J'ai pas de basilic. Ben, tu pourrais utiliser cette épice-là à la place ou cette herbe-là à la place, puis ça va être un goût différent. Mais justement, pourquoi pas oser? Puis là, on dit comme, hey, c'est peut-être même meilleur au final.
Les gens, des fois, ils pensent qu'il faut qu'ils suivent la recette comme telle.
Ils ont peur de sortir du cadre.
À un moment donné, quand tu te rends compte que tu peux sortir des sentiers battus, que tu peux essayer des affaires, puis ça se peut que ça soit poche.
Idéalement, on le jette pas, là.
Non, non,
même
on le jette
si c'est
pas,
poche.
Non, même si c'est poche, on le mange. Ça, c'est clair.
Comment ça fonctionne, l'approvisionnement en aliments?
À la base, ben c'est ça. J'étais dans les distributions alimentaires, je partais avec les restants. Et ben, par la suite, il y a encore une fois, c'est du bouche à oreille ce projet-là, vraiment. Là. Oui. Puis, ben, j'aime ça de même aussi. On a trop de dons. Okay. Il y a trop de nourriture à sauver. Il faudrait qu'on fasse d'autres cuisines. Oui. Fait que ce projet-là, il faut qu'il continue.
Oui. C'était formidable. L'été dernier, on a eu des invendus du marché Saint-Sauveur.
Écoute,
on avait des beaux aliments. C'était mort. On faisait des salades spectaculaires.
Jardin,
très colorées.
Oui.
Les jardins Saint-Augustin, c'est eux autres aussi qui nous apportaient des chaudières de légumes frais sortis du champ.
OK.
Puis c'est juste parce qu'eux autres, ils étaient souvent trop gros, donc les gens ne les achètent pas parce qu'ils sont trop lourds, par exemple.
OK.
Ou ils ne sont pas dans le bon format pour leurs emballages. C'est tout simplement ça. Puis c'est une employée qui prenait sur elle, qui a entendu parler du projet avant même qu'on commence à publiciser, en fait. D'elle-même, à chaque jeudi, venait nous porter des chaudières de très, très beaux légumes. Puis c'est ça, les belles salades variées qu'on a pu faire. Puis oui, grâce au marché Saint-Sauveur aussi, à chaque semaine, ils nous donnaient.
OK. Mais voyez, avec votre projet, vous permettez de réduire à la source des aliments qui, par exemple, au champ de Saint-Augustin,
qui aurait été tout à fait comestible, tout à fait bon, mais parce qu'ils ne respectent pas certains standards, ce qui est souvent problématique dans l'industrie agroalimentaire, ben, ils se sont jetés.
Ouais.
Ça reste du gaspillage. Il faut s'entendre,
on n'utilise que des choses comestibles.
Oui, 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 non, c'est sûr que
si c'est acheté, on les jette.
Est-ce que vous cuisinez des fois avec des aliments plus mous, des trucs qui ont l'air un peu plus défraîchis? On ne parle pas d'insalubre du tout.
Oui, des mous, on pense, par exemple, la tomate est plate à manger quand elle est molle, mais rentre dans une sauce.
C'est pas grave.
C'est ça.
Puis est-ce que ça a permis aux gens qui font du bénévolat pour vous à se conscientiser sur même si mes aliments sont moins frais, sont plus défraîchis, je peux quand même faire quelque chose de bon avec? Ou c'était déjà des gens sensibilisés, peut-être?
Bien, ça dépend vraiment qui, parce que, comme on le dit, on a plusieurs personnes. Puis pourquoi on a autant de gens? Bien oui, une question de faire un roulement qui devient super intéressant par l'échange de connaissances ou l'apprentissage.
Il y a des gens qui sont déjà conscientisés puis qui vont essayer de récupérer la plus grande quantité d'aliments.
Oui.
Puis il y en a d'autres qui n'ont pas cette habitude-là. Des gens qui ont l'habitude de jeter des gros morceaux d'aliments. Je ne sais pas comment expliquer ça, là, mais...
Ils ne prennent pas le temps de vraiment tout utiliser.
Il faut y aller gentiment. Il faut quand même leur dire c'est bon. Là. On ne jette pas cette partie-là parce que c'est encore consommable, tout à fait. Puis...
Pas juste encore consommable, c'est juste ça. C'est des mauvaises habitudes.
Non, c'est ça. C'est ça. Faut peut-être un petit peu plus de travail parce que j'imagine que vous faites des grosses quantités. Fait que des fois, ça doit encourager certaines personnes à tourner un peu plus les coins ronds pour aller plus vite pour servir plus de repas. Mais au final, si on gaspille, c'est vraiment pas
mission.
L'objectif de la. Moi, c'est ça de votre mission, je comprends.
Puis justement, j'en reviens à mon style de vie de base. Je veux que les gens, on arrête de penser tout le temps pressé.
Oui.
Faut s'arrêter pour prendre le temps.
Mm-hmm.
Mais c'est juste de savoir comment gérer les choses. Donc, tout le temps, il faut être pressé, on va aller plus vite, mais est-ce qu'on va vraiment plus vite au final quand on fait autant de gaspillage alimentaire? Puis j'ai lu récemment, au Québec, 45% des déchets de maison sont des déchets alimentaires.
OK.
Mais pas nécessairement par gaspillage, parce que les gens gaspillent, mais tout simplement dans cet esprit-là, la personne coupe un petit peu trop, ils coupent les coins ronds, puis ils ne savent pas valoriser l'aliment. Donc ça, c'est une autre chose vraiment qu'on... On essaie de conscientiser aux gens qui viennent avec nous. La pelure, déjà là, la carotte, on a l'habitude de peler les carottes, mais pourquoi? Je veux dire, il n'y a pas de pelure sur une carotte, donc, mais on a quand même cette habitude-là. Donc, des gens qui veulent garder cette habitude-là, par exemple, la pelure est encore utilisable pour faire un bouillon de légumes, des trucs comme
juste
ça.
Juste important de vraiment bien nettoyer. Oui. Autant si on garde la pelure sur l'aliment que si on fait un bouillon.
Oui, c'est juste une question d'habitude.
Je pense qu'avec l'augmentation du prix de l'alimentation en ce moment, j'ai l'impression qu'il va y avoir un petit buzz là-dessus.
Est-ce que n'importe qui peut commencer une initiative comme ça ou c'est vraiment... De ce que je comprends, c'est que tu étais déjà un peu dans le milieu.
Bien, en fait, comment le projet a démarré, c'est même pas dans le but de créer un projet. Donc, j'ai commencé à faire du bénévolat dans des distributions alimentaires, me rendant compte qu'il y avait des surplus. Bien, j'ai fini par le demander, est-ce que je pourrais repartir avec? On était en pandémie, j'avais du temps aussi à la maison. On était confinés. J'apportais ça chez moi, je cuisinais avec plaisir. Bien, je veux dire, j'avais besoin de me désennuyer pendant le confinement. Donc, je cuisinais des heures et des heures. Puis là, ça me donnait aussi une raison de sortir pour aller prendre une marche. À tous les jours, j'allais au frigo partage, aller porter les repas que j'avais cuisinés, soit la veille ou l'avant-veille. Et à partir de là, il y a eu un moment où le chef du service d'entraide Basseville, où je faisais du bénévolat, parce qu'il me voyait partir avec des grosses quantités. Puis là, il me dit, plutôt que partir avec, tu voudrais pas les cuisiner ici? Oui.
C'est sûr, ça serait facile.
Ça serait facile. J'étais comme, OK, tu pourrais me les garder pour que je les cuisine. Ça me faisait de la peine, vraiment, j'avais de la peine pratiquement physiquement, ça me faisait mal de voir tous ces aliments-là jetés. Il faut se conscientiser que c'est rendu normal de gaspiller, mais ça ne devrait pas l'être. C'est pas... Les gens sont gênés en allant au restaurant de demander leur restant à apporter à la maison, mais eux autres, derrière les cuisines, ils vont le jeter de toute façon. Donc, pourquoi on se sent gêné de dire, genre, j'aimerais ça repartir avec mes restants? C'est pas parce que t'es pauvre, c'est juste parce que... Tu veux pas gaspiller, tu sais.
Puis parce que c'est bon aussi. Des fois, on a plus faim, c'est bon. J'avais déjà entendu un chef qui m'avait dit non, au contraire, on trouve ça flatteur quand vous nous demandez de ramener les restants. Ça veut dire que vous avez tellement aimé ça que vous voulez le ramener.
On se juge nous-mêmes, en fait. C'est pas eux autres qui
jugent. Non, c'est ça. Puis on a peur de qu'est-ce qu'on va avoir l'air. Je pense que c'est plus ça qui
bloque. C'est la mentalité qui va changer. J'aime bien ce qui se passe avec la jeune génération qui est plus conscientisée sur le climat, sur la sécurité alimentaire, sur l'entraide.
Faut continuer d'aller vers là, mais par exemple, on a des gens d'à peu près tous les âges. Là, on a eu des ados, on a eu des parents-enfants. J'ai aussi ressenti le besoin, puis là, je m'en rends compte, de m'entourer de personnes qui ont un peu cette mentalité-là, oui. Parce que justement, je trouve que notre société est malade.
On disait tantôt, le partage de connaissances est important, parce que, comme vous dites, vous avez des gens de tous les horizons, de tous les âges, toutes ces personnes différentes-là permettent d'avoir des recettes différentes, puis de cuisiner de façon intuitive, comme tu le disais, de partir des aliments puis toujours créer quelque chose. Ben, pas nécessairement de nouveau à chaque semaine, mais de varier.
Je donne souvent l'exemple d'une sauce à spaghetti. Tout le monde a une recette en tête, mais oui. Est-ce que c'est la même? Non.
Non.
Elle est différente dans la tête de chaque personne. Donc, à chaque semaine, par exemple, si on fait un macaroni, ben ça reste des pâtes puis de la sauce, mais tu as mis quoi dans ta sauce?
Oui.
La sauce va être variée, elle va varier d'une semaine à l'autre, en fait.
Oui, je comprends. C'est selon les aliments que vous avez. Et est-ce que vous avez des ressources financières ou faites
non.
ça complètement, OK, complètement bénévolement?
Oui. Mon cœur est dans ce projet-là, dans le fond. Là, c'est un mode de vie, je le fais de toute façon à la maison, puis je me dis justement... si je peux le faire à plus grande échelle, aider plus de gens, puis autant pour nourrir les gens que conscientiser.
Il doit y avoir une certaine expansion et des subventions, si jamais quelqu'un qui peut donner des subventions écoute.
Oui, nous, on est quand même chanceux en ce moment parce que le service d'entraide nous permet de piger dans l'huile, le sucre, des trucs comme ça, là, des trucs de base, parce qu'on n'a pas vraiment de dons, en tout cas rarement de dons de
ou pas suffisamment,
de ces choses-là. Là.
Ah, oui.
C'est des choses dont on a besoin tout le temps. Donc, on a comme un fonds de cuisine qui nous est accessible, mais c'est certain qu'éventuellement, si on veut être ailleurs ou être complètement autonome, ben c'est sûr qu'à un moment donné, ça va en prendre de l'argent, parce qu'il y a toujours des choses qui ne nous sont pas données qu'il faudrait acheter pour pouvoir faire...
pour compléter les recettes, c'est ça.
Mon cœur est dans ce projet-là, puis je m'y mettrais à temps plein si je pouvais. Mm-hmm. Mais effectivement, sans salaire, c'est un peu plus difficile, parce que même, je le dis, des bénévoles, j'en ai plein, puis je peux aller en solliciter. Donc, on commence là, à se publiciser le projet, mais ça reste quand même que sans salaire, je ne peux pas tout faire non plus.
Puis en faire tout le temps.
Non, mais j'aimerais ça. Justement, je voudrais m'y mettre à temps plein parce que ça me fait de la peine de voir qu'il y a des gens qui aimeraient embarquer. J'ai même pas commencé la sollicitation auprès des épiceries, des restaurateurs, parce que je ne peux pas justement réceptionner le tout en ce moment.
Vous diriez que c'est quoi les principales difficultés à un projet comme ça, autant de lancer un projet comme ça que de le maintenir au quotidien?
C'est toute la gestion la gestion des gens, combien de bénévoles, qui, la gestion de la nourriture aussi, parce que il faut quand même regarder ce qu'on a, mais tu sais, là, on a ça, on en a beaucoup, mais ça, c'est encore capable de durer une semaine sans problème. Là, en priorité, il faudrait utiliser tel et tel aliment.
Oui.
Ah, ben, on a eu des œufs, mais là, il faudrait les utiliser cette semaine parce que la semaine prochaine, il va falloir toutes les tester parce qu'on n'est plus sûr.
C'est déjà difficile à faire dans nos cuisines.
C'est ça, c'est ça.
Alors que quand on a des énormes quantités à gérer puis des beaucoup de plats à cuisiner.
Un autre problème du projet, t'as parlé de l'espace, parce que là, en fait, avec le temps, finalement, ils nous ont fait un petit espace au service d'entraide Basile dans leur chambre froide.
Oui.
Ils nous ont fait un espace sur leur tablette pour justement pouvoir réussir à sauver encore plus, parce que au début, il fallait penser justement à récupérer tout le soir même. Donc là, c'est encore. Mais il y avait encore des trucs qu'on pouvait potentiellement utiliser la semaine d'après, mais on n'avait pas l'espace pour conserver ces aliments-là. Donc, finalement, ils nous ont fait un petit espace. Puis finalement, après ça, ils nous ont fait aussi un espace, une armoire. Ils nous ont mis une armoire dans un petit local qui n'est pas très, très utilisé. Puis là, ben, j'appelle ça notre cachette d'écureuil. Donc, les denrées, je dirais pas sèches, là, mais les denrées...
non périssables.
Oui, non périssables. Ils sont stockés là. Donc, ça, c'est plus facile. Puis ça, c'est encore une fois... On m'a offert de continuer le projet dans d'autres cuisines, mais c'est ça aussi. Si la cuisine n'est pas utilisée, mais qu'ils n'ont pas d'espace pour garder des choses, ça devient un petit peu un problème parce qu'il faut les ranger quelque part. Puis comme on veut essayer de tout sauver, ça nous fait de la peine s'il faut qu'on jette. Là.
Mais ça doit être difficile aussi de tout ramasser la nourriture le soir même. C'est pratiquement impossible de dire « OK, on cuisine à partir d'un vendu, mais il faut absolument tout aller chercher dans des commerces là maintenant parce qu'on n'a pas d'espace pour stocker. Ouais. » Par exemple, une semaine au courant de la semaine avant, on peut accumuler de la nourriture, aller en chercher ici et là pendant toute la semaine. Puis OK, on arrive le jeudi, puis on a quand même beaucoup d'ingrédients avec lesquels on peut jouer versus
Mais c'est encore quand même un problème parce que même quand on m'appelle pour me dire « Peux-tu venir chercher... » tel truc. Déjà, ben, il faut que je sois disponible pour y aller. Mais au final, avec les bénévoles, ceux que j'appelle les pédaleux, j'ai aussi une équipe de bénévoles, une petite liste de bénévoles qui vont chercher les denrées pour les déplacer. Mais il suffit que l'établissement, le service d'entraide Basseville, soit fermé. Je les mets où? Donc, ça serait tellement, tellement bien d'avoir notre place à nous. Comme ça, on pourrait avoir les clés. Des partenaires, ben il y a une des cuistots qui est devenue photographe. Donc, ça aussi, elle est venue prendre des photos. Elle nous a fait des belles photos qu'on va pouvoir utiliser sur la nouvelle page Facebook, les cuistots du frigo. Mais elle est toute nouvelle. Fait que je suis dans l'apprentissage de comment gérer une page Facebook et tout.
Okay.
Donc, les photos, ben, ça fait un petit bout, mais là, quand elle va avoir fini l'école, elle est encore en cours. Donc, quand elle va avoir fini, elle va revenir cuisiner, puis avec plaisir qu'elle prenne des photos pour nous.
Votre initiative est vraiment le bon exemple que quand on offre aveuglément, disons, ben on finit par recevoir, là, c'est pour résumer. Donc, on peut vous retrouver sur Facebook avec les cuistots du frigo. Puis sinon, si jamais il y a quelqu'un qui veut vous contacter pour faire du bénévolat...
Ça peut être directement sur la page Facebook, ou sinon ça peut être, on a un Gmail qui est lescuistotsdufrigo, tout collé, à commercial@gmail.com.
Okay.
Les partenaires du projet, ça peut être des commerces, ça peut être des organismes, ça peut être des gens individuellement qui ont un jardin, mais ça peut être aussi quelqu'un qui arrive avec une nouvelle idée, une disponibilité, un local. Il y a d'autres façons là, de s'impliquer, puis le projet, il n'est pas canné, il est toujours en constante évolution. Comme tu disais, là, on y va aveuglément, puis on fait confiance aux gens parce que c'est tous des beaux humains qui veulent aider, dans le fond, ceux qui me contactent. Donc, moi, je ne vais pas courir après quelqu'un. Au contraire, je veux que ça parte d'eux-mêmes parce que c'est ces personnes-là que je veux. Je veux m'entourer de ce genre de personnes-là qui prennent tout ça à cœur, que ce soit l'environnement, que ce soit la cuisine ou le don dans les frigos par la suite. Les gens sont importants.
Oui, ah, ben wow!
Les humains. Puis il faut prendre soin des bénévoles pour continuer aussi de donner.
Oui, oui. Hey, vraiment, ça m'a vraiment fait plaisir de vous parler cet après-midi. On a parlé de beaucoup de sujets.
Merci pour l'invitation.
Ben, ça m'a fait plaisir, puis merci vraiment d'avoir accepté. Donc, encore, si vous voulez rejoindre Alexa et Sylvie des Cuistots du Frigo, c'est par Facebook que ça se passe, donc les Cuistots du Frigo, ou par courriel à les cuistots du frigo, tout collé, à commercial@gmail.com.
Merci.
Merci.
La réalisation de ce balado est possible grâce au financement de la Ville de Québec dans le cadre du projet Mange Gardien et chapeauté par les Amis de la Terre de Québec.